Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et qu'on sort les Monday Night Raw, les Friday Night SmackDown, les Premium Live Event, parfois même les autres fédérations. Et puis de temps en temps, dans ce bouillonnement d'actualité permanente, on s'arrête, on se pose, on fait un bilan. Je suis Raphaël et justement, je suis au comptoir du catch, je suis au bar. Et je suis avec mon ami Géliel, qui est parti chercher la prochaine tournée. Géliel, ça va ?
Ça y est, je reviens juste. Bah écoute, on a la tournée, donc tout va bien, tout va très bien. Très content d'être avec toi sur ce comptoir du catch, ce moment où on se pose un peu, comme tu le dis, et on parle catch, bien entendu, mais sur un temps un peu différent. Et donc, je te laisse nous présenter le sujet du jour.
Eh bien écoute, déjà à la tienne, et puis on va lever notre verre aux 1000 jours de règne de Roman Reigns en tant que champion du monde de la WWE. C'est quand même historique, de ma vie et de la tienne, je pense, nous n'avions jamais vécu ça, non ?
Non, clairement pas.
Ouais, voilà, 1000 jours, donc je vous laisse faire la division par 365, par 12, par ce que vous voulez, pour savoir combien de mois, de semaines, d'années Roman Reigns est champion du monde, avec en plus un règne qui s'est affûté au fil du temps avec une deuxième ceinture, et puis maintenant à l'heure où on vous parle, alors qu'il vient de fêter ses 1000 jours, il en a même 3 avec lui, c'est incroyable. C'est formidable. Et bien, j'avais envie de rendre un petit hommage aussi à tous ces hommes qui ont affronté Roman Reigns pour essayer de lui prendre son titre et qui n'ont pas réussi jusqu'à présent. Personne n'a réussi. Ils sont officiellement 18 à avoir affronté Roman Reigns de manière, on va dire, officielle et télévisée. Je n'ai pas compté les Dark Match et les House Show dans mon décompte. Mais comme je suis quand même un petit peu sévère et qu'on est là... Mais là, pour critiquer, pour encenser, eh bien, je les ai classés. Du celui qui m'a le moins paru marquant à celui qui me paraît l'adversaire le plus vaillant, la rivalité la plus marquante, la feud la plus impressionnante. Eh bien, Géliel, si tu le veux, j'ai mon petit bout de papier, je te laisse prendre ta bière et nous allons commenter tout ça ensemble. Et puis, peuple de catch-up, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce classement. On y va ?
Ouais, je suis prêt et en plus je pense qu'on va se, enfin ça va nous rappeler des souvenirs, ça va nous ramener à des moments particuliers de ce règne et je pense qu'on saura également en parler un peu sur la durée. Donc je suis prêt, ma bière est posée, tout est frais, on y va, je suis avec toi.
Tout est frais. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas facile de faire un classement et je pense que si je me reposais encore une heure de plus pour réfléchir, je changerais plein de trucs. Mais à un moment il faut s'arrêter. En tout cas pour moi les derniers, puisqu'on va commencer par la fin. Sont assez indiscutables. Ils sont deux à égalité, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce sont tout simplement les tout premiers adversaires de Roman Reigns, ceux qu'il a battus pour récupérer cette ceinture. Bray Wyatt et Braun Strowman, il faut revenir 3 ans en arrière, c'était un triple threat. Est-ce que tu as la mémoire ? Ce n'était pas à SummerSlam, puisque Roman Reigns était revenu à SummerSlam. Quel était le nom de ce pay-per-view ? À l'époque, on était dans le Thunderdome, hein, Roman Reigns, il commence son règne, et c'est assez marrant parce qu'en me refaisant les feuds, je me suis rappelé de ça, il commence son règne et il fait une bonne partie de son règne sans public, hein, devant des visages pixelisés, devant des écrans télé. Eh bien, Bray Wyatt et Braun Strowman étaient en feud depuis des mois l'un contre l'autre, Roman Reigns s'est glissé là-dedans, il a pris la ceinture, il a fait un tombé, et puis il les a laissés tomber justement, puisque ni l'un ni l'autre n'auront de vrais feuds et de match revanche. Donc je ne sais pas si tu partages ton avis, mais pour moi, ça aura vraiment été des adversaires très peu marquants pour Roman Reigns. Un début de règne, finalement, enfin une victoire en tout cas, qui ne restera pas dans les mémoires.
Non, d'autant que ça nous ramène à Payback 2020, cette histoire-là.
Ouais, Payback.
Et effectivement, on n'est pas encore sur toute cette histoire. On est juste sur une victoire de Roman Reigns. On n'imagine pas la fin de l'histoire à ce moment-là. Donc effectivement, c'est un match comme un autre, avec la particularité d'un triple threat. Rien de plus pour le moment. Donc je partage complètement ton classement.
Oui, donc c'était la petite astuce du triple threat, c'est qu'il a gagné sans avoir vraiment sans avoir eu besoin d'être spécialement dominant sur l'un ou l'autre, juste d'avoir réussi à placer le tombé au bon moment, et c'était gagné pour lui. Alors, je suis peut-être peuple de ketchup. On a ici à ketchup, vous savez, nos chouchous. Et puis, ceux qu'on aime moins, bah, je suis peut-être un petit peu sévère. Mais en avant-dernier, en 16e, j'ai mis Goldberg. Car je t'avoue que je n'ai même pas de vrai souvenir marquant du match entre Goldberg et Roman Reigns. Est-ce que toi, ça te titille un peu plus dans la mémoire?
Ah, oui, parce que j'ai toujours une espèce de voilà, d'affection pour Goldberg. Enfin, je l'ai longtemps eu là. Maintenant, c'est vrai qu'on est passé sur quand même sur quand même autre chose, hein. C'est vrai que c'était quand même assez compliqué les dernières sorties. Mais ce match-là, non, vraiment aucun souvenir et puis surtout aucun souvenir mémorable de ce qui a pu être intéressant entre ce match. Je crois qu'on était un peu plus loin. On était sur en 2022. Est-ce que c'était pas l'Elimination Chambers 2022?
Exactement, Arabie Saoudite, hein, on est. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, avec un Goldberg qui est quand même loin de ce qu'il a pu être, et puis finalement enfin, voilà, un truc vraiment sans intérêt ni pour lui ni pour Romain, vraiment à oublier.
Ouais, ils nous l'ont glissé de manière totalement anecdotique entre. C'est juste avant la réunification des titres contre Brock Lesnar, dont on va parler plus tard. Donc, il n'y a pas beaucoup de suspense et le pauvre Goldberg a pas fait long feu. En numéro 15, là aussi un gros nom qui sort déjà, puisque j'ai mis John Cena. Et oui, John Cena qui avait fait un retour inattendu pour venir bah, challenger en fait le Roman Reigns de l'époque champion, et qui va bah, perdre après. Donc il avait fait, c'était à SummerSlam, donc là on a SummerSlam 2021. Il perd contre Roman Reigns à John Cena. Il est juste venu pour ça. Et il repart un petit peu comme ce qu'il nous a fait cette année pour Austin Theory. Donc finalement, un petit coup d'épée dans l'eau là quand même dans ce battle de monstres.
Ouais, et avec le recul, enfin, je suis d'accord avec ton classement aussi parce que avec le recul, ce match-là, cette feud-là, finalement, elle fait pas grandir Roman Reigns parce qu'elle était très artificielle quand même. Ni John Cena qui n'avait pas forcément besoin de grand-chose, mais en tout cas, il y avait moyen de construire quelque chose d'un peu plus intéressant, peut-être sur la durée, de positionner ça autrement que ça a pu être construit. Alors, Roman Reigns versus John Cena pour le titre, ça a tout du Dream Match, mais un peu tard, un peu trop tard pour John Cena, je pense. Et du coup, bah, du coup peu crédible, c'est pareil. Même si je me souviens des revues qu'on avait fait à l'époque qui précédaient le show, il y avait quand même, et je me souviens des votes également, des pronos où c'était finalement pas tant à 100% d'un côté de l'autre que de l'autre. Mais trop tard, trop peu d'histoire, trop peu de choses qui font avancer, trop peu de choses qui font grandir pour moi. Voilà, donc je ne retiens pas grand-chose de cette feud avec John Cena.
Ah, il y avait un petit doute parce qu'effectivement c'était SummerSlam, c'était vraiment juste avant que Roman Reigns atteigne sa première année tout simplement de règne. Donc ça aurait pu, mais non,
Des
on a
pivots.
continué et on s'en rend compte
Et
maintenant aussi, John
heureusement,
Cena
heureusement.
est peut-être plus capable, tout simplement. Alors en 14e, c'est chiffre maudit à la WWE, hein, il faut faire attention à ce chiffre-là, j'ai mis Rey Mysterio. Alors il n'y a pas eu grand-chose, et c'était pas dans des Premium Live Events. Mais je l'ai mis juste parce que je me souviens que c'était une période de Thunderdome et qu'ils en avaient profité pour faire ce moment où Roman Reigns avait jeté Dominik, qui était encore alors l'allié de son papa, depuis le ring jusqu'à l'extérieur. Là, c'était visuellement assez impressionnant. Puis ça avait donné, si ma mémoire est bonne, un Steel Cage Match ou un Hell in a Cell contre Rey Mysterio.
Hell in a
Hell in
Cell.
a Cell qui était finalement pas si mal en fait, hein, cet affrontement, cette feud qui n'avait pas beaucoup donné de suspense, mais qui avait eu le mérite d'être assez divertissante.
Hell in a Cell, 2021, effectivement.
Hey,
Et
une scène 2021.
ouais, enfin, sur un, comme tu l'as dit, hein, c'était en weekly.
Ah oui.
N'empêche que le match était bon, le match était très bon. Et je veux dire, contrairement à celui de John Cena ou même le match, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Là, on a un Rey Mysterio dans un match en cage qui donne le change. Et voilà, même si pareil, c'est d'ailleurs enfin rapidement ça a été devenu aussi un gimmick, enfin un gimmick, une impression pesante dans le règne de Roman Reigns, c'est l'incapacité finalement d'avoir des adversaires de valeur, mais ça aussi, c'est aussi ce qu'il a su écrire, ce qu'il a su nous raconter et pourquoi il arrive aujourd'hui à 1000 jours, hein, c'est tout simple. Mais donc là, ce match-là était vraiment beaucoup plus sympa, et donc bah Effectivement, sur la capacité à prendre le titre, on y était moins, mais avec un Dwayne Ring plus intéressant, ben, je comprends que tu l'aies placé devant John Cena globalement, quoi. Donc, je partage.
Très bien. Bon, pour le moment, on est d'accord. On va continuer notre petit numéro du loto. En numéro 13, ça aussi, c'est un numéro qui peut porter malheur ou bonheur. J'ai mis Finn Balor. Finn Balor qui n'a pas eu une grande rivalité contre Roman Reigns, mais qui aura eu ce match assez étonnant où il prend quasiment complètement le dessus, en fait, Finn Balor en mode démon, et où il ne doit sa défaite qu'à ce turnbuckle qui se casse la gueule. Alors, une très très étonnante astuce de la WWE, quelque chose qu'ils nous ont jamais vraiment trop fait, qu'ils nous ont jamais vraiment refait. Et un Finn Balor finalement qui n'utilisera jamais ça pour avoir un match revanche ou autre chose, hein, il est vite passé à la suite. Mais on avait peut-être eu quelques frissons, nous étions à Extreme Rules en 2021, donc on n'était pas très loin après cette période-là avec John Cena et autres. Et j'en ai plutôt un souvenir marquant, au moins de ce segment-là, qui mérite peut-être d'être un peu plus haut dans le classement que les autres.
Je suis d'accord avec toi. Et c'est, enfin voilà, c'est un des premiers où je pense qu'il aurait mérité d'être plus haut, parce qu'on a le démon d'un côté, parce qu'on a Roman Reigns aussi. Alors on est encore sur le premier tiers de son règne, en gros, hein, on est entre la moitié et le premier tiers de son règne, donc il n'a pas encore cette aura. Néanmoins, on convoque pas le démon pour quelque chose d'aussi court. Je pense que ça aurait mérité mieux, et puis le match a été, je trouve, très 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 sympa. Ça aurait mérité mieux, et je pense que l'opposition que le démon Baylor a opposé à Roman Reigns était quand même de fort bon niveau et mériterait d'être un peu plus haut dans ton classement. Je me souviens, hein, effectivement, avec l'overbooking des Usos qui arrive à ce moment-là, mais le démon qui arrive à s'en sortir. Il y a vraiment eu un gros gros match. Et puis l'histoire aurait pu basculer. Enfin, moi je le souhaitais. Je me souviens à l'époque qu'elle bascule du côté de Baylor, qui n'aura jamais eu forcément, par un règne initial, pardon, beaucoup les faveurs de la WWE au niveau des futurs. J'aurais aimé que ça bascule plus du côté du démon Finn Balor, mais donc c'est pour ça que je l'aurais mis un petit peu plus haut par rapport à ton classement.
Écoute, il y avait des gros noms aussi hein, dans ce classement, mais Finn Balor, en tout cas, ouais, aurait peut-être mérité plus. Et c'est vrai que c'est étonnant que par rapport à la partition qui a été donnée, il lui ait pas donné au moins une seconde chance. Mais on va dire que c'est un certain hommage à son mérite de lui avoir de l'avoir fait perdre finalement sans vraiment perdre, puisqu'il perd d'une façon. Alors, certains diront que c'est un peu ridicule, d'autres diront que c'est une façon de le préserver aussi. Mais en tout cas, il n'aura pas vraiment été battu à la loyale par Roman Reigns. Bon. Ils n'ont pas été très nombreux à avoir été battus à la loyale par Roman Reigns. Il y a souvent eu de l'overbooking, comme tu l'as rappelé, et les Usos qui étaient par là. En 12e, c'est vrai qu'il aurait pu peut-être figurer un peu plus bas que Finn Balor, mais je le laisse à cette position. J'ai mis Riddle, Matt Riddle, qui n'a pas eu grande opposition contre Roman Reigns, qui aura eu quelques élans de courage. Mais je me souviens d'un weekly là, en main event où, alors qu'ils sont en confrontation micro, il fout un énorme coup de genou à Roman Reigns qui tombe dans les bras de ses cousins derrière lui. Et puis bah, c'était la période RK-Bro où ils étaient quand même au top. Randy Orton, d'ailleurs, on peut déjà spoiler, hein, n'est pas dans ce classement. Il s'est blessé malheureusement trop tôt, alors que c'était probablement dans les cartons hein, de faire une feud RK-Bro contre la Bloodline et que Riddle allait être la première étape et Randy Orton la deuxième. Et rien que pour ça, pour cette ambiance qu'il y avait à l'époque et pour la popularité de Riddle, je l'ai mis un tout petit peu plus haut. Il aura été vaillant, mais lui aussi, il sera tombé face à Roman Reigns, face au Tribal Chief. Je te souviens un peu de cette époque-là. Là, nous étions, je pense, l'été 2022. Il faudrait que je revoie, mais je pense que c'est
Oui,
ça.
c'est dans ces eaux-là, exactement. Enfin, autant, je suis d'accord avec toi dans l'idée. C'est-à-dire que un truc en deux niveaux, où on a d'abord le jeune, un peu l'inexpérimenté, puis finalement qui a peu d'accomplissement dans la WWE, Riddle qui va un peu ouvrir le chemin vers la tête de la table. Pour finalement un affrontement après de plus haute tenue avec Orton, ça avait vraiment de la gueule. Ça avait vraiment de la gueule en mode un peu Apollo Creed versus Drago, etc., etc. Où on envoie d'abord le petit jeune ou le petit vieux, comme on veut, pour avant le gros combat, ça avait de la gueule. Maintenant, très clairement, Riddle tout seul, pour moi, ça a pas, ça marche pas. C'est trop juste d'un point de vue. environnement, d'un point de vue écriture, etc., etc. Donc le côté avorté, bah ok, du coup on prend. Maintenant, l'un sans l'autre, je trouve que ça marche moins bien. Du coup, moi je l'aurais mis quand même plus bas parce que ça n'a pas été un adversaire non plus extraordinaire pour Roman Reigns, ni dans l'histoire, ni dans le déroulé, même si intéressant. Mais voilà, je l'aurais mis un peu plus bas pour ma part.
Très bien, alors est-ce qu'on sera d'accord sur le numéro 11? En 11, j'ai mis quand même un catcheur qui est populaire ici à Ketchup. J'ai mis le Rated R Superstar Edge. Edge qui aura fait donc un retour gagnant après 11 ans d'absence justement pour gagner un Royal Rumble qui l'a emmené à un WrestleMania face à Roman Reigns. Le WrestleMania 37 en 2021. Sauf qu'entre-temps, il y a un autre petit gaillard dont on parlera plus tard qui a réussi à se glisser dans l'opération. Donc c'était un triple threat, peut-être un des meilleurs main events triple threat d'un WrestleMania. Je me souviens d'un très très gros match. Et ensuite, nous avions eu un Money in the Bank en 2021 où il y avait encore un match contre Edge. Donc Edge n'a jamais réussi à battre Roman Reigns. Il était dans une belle période, hein. C'est son époque là où il utilisait les barres des chaises pour étrangler ses adversaires. Il y a eu de très beaux segments. Mais bon, pour moi, il est juste en dessous du top 10 parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'autres grands adversaires. Edge, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'aurais mis plus haut? Tu as mémoire forcément de ces moments-là.
Oui. Et puis tu fais référence à ce match à WrestleMania avec Daniel Bryan, cette triple threat.
Bien sûr.
Ouais, j'ai mon petit cœur qui bat un peu pour Edge. Donc j'ai été vraiment déçu quand j'ai vu l'ajout de Daniel Bryan. Ça s'écrivait pourtant assez facilement, donc il y a rien à dire. Et puis ils ont délivré un truc assez dingue quoi, en termes de in-ring. Donc rien à dire. Je suis d'accord avec ton classement. Le retour de Edge, aussi bon fut-il, ne méritait pas forcément un retour au titre suprême. Voilà. Point. Ce qu'il a fait dans le job qu'il a pu faire, la création du Judgment Day derrière, etc., etc., c'était très très bien. Il y a eu des matchs très sympas par ailleurs. Mais je suis d'accord avec toi. Dans les oppositions, et Dieu sait que enfin, j'ai une bonne idée de ce qui peut arriver par la suite dans ton classement, il a été qu'un des éléments qui s'est mis en travers de la route, pas forcément beaucoup plus éligible à la victoire, au contraire, comme je te dis, que d'autres. Donc il est bien positionné. On peut quand même lui accorder le mérite d'avoir fait des gros matchs sur cette période-là, d'avoir fait des oppositions, d'avoir une pop pas possible qui marchait vachement bien aussi à ce moment-là, suite à son retour au Royal Rumble. Donc voilà, il a contribué au règne de Roman Reigns, mais sans y être effectivement beaucoup plus haut que ce classement. Donc je suis en phase avec toi.
Ouais, Edge peut-être un peu trop vieux hein, pour avoir été mis à ce
Ouais.
niveau-là, mais bon, ça, comme tu dis, ça a marché auprès du public quand même. J'étais pas un très grand fan du fait qu'il gagne en Royal Rumble, voilà, après des années d'absence au nez et à la barbe de tous les petits méritants qui étaient là depuis
Et puis
longtemps, mais bon.
en faisant l'Iron, je crois, non? Il a fait du premier au dernier sur ce coup, sur ce retour, non?
C'est celui-ci qui gagne, oui, tu as raison, je pense. Oui,
Oui.
c'est ça,
Donc en plus, donc
exact.
voilà. Et toute la différence aussi entre un match réussi ou enfin Evil Triple Threat, mais après il y a eu l'autre Money in the Bank, mais et puis la feud avec John Cena, où on peut dire que ce sont deux vétérans quand même maintenant, part-timer, alors que bon, Edge est revenu un peu plus, mais on était quand même dans pas loin en termes d'âge, où l'un, je trouve que c'est tombé très à plat. Et l'autre, bah, l'autre, c'est que, enfin, j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus distrayant, sans dire d'y croire beaucoup plus, donc de mettre en danger le règne, mais au moins d'apporter quelque chose d'intéressant, à l'histoire.
Ouais, il aura quand même fait partie, je pense, des grands noms qui sont des beaux tableaux de chasse pour Roman Reigns et
Ouais.
qui en plus au-delà de ça devait lui faire plaisir d'affronter parce que mine de rien, je pense que quand on est un catcheur bon plus si jeune que Roman Reigns, mais affronter Edge, ça devait être bien sympa, ça devait rappeler des souvenirs d'enfance.
Clairement.
En numéro 10, donc voilà, on arrive dans le top 10, j'ai mis tout simplement Cody Rhodes. Alors on aurait pu l'attendre plus haut, mais avec ce qui s'est passé maintenant, on peut le dire, hein, ce WrestleMania qui est déjà loin derrière nous, peut-être que l'avenir me donnera tort et Cody Rhodes, on espère bien, retrouvera lui une place pour le titre. Lui, pour le coup, il est encore dans cette phase-là ascendante d'écrire les plus beaux moments de sa carrière. Mais finalement, ce Rumble qui lui était complètement promis, ce retour que tout le monde attendait, ce match à WrestleMania dont quasiment tout le monde disait qu'il était fait pour qu'il gagne, et Cody Rhodes non seulement n'a pas gagné, mais est assez vite passé à autre chose. À l'heure actuelle où on en parle, il est plutôt tourné autour de Brock Lesnar. Il reviendra, mais puisqu'on est là aux 1000 jours et qu'il est temps de juger à l'instant T, j'ai finalement pas trouvé si marquant que ça cette opposition. Ils se sont très peu croisés tous les deux. Et puis finalement, il s'est passé un peu ce que Roman Reigns semblait dire, hein. Il l'a un peu pris de haut, Roman Reigns. Il a un peu pris comme si c'était le New Kid qui arrivait. Cody Rhodes n'a pas réussi à passer la marche supérieure et Roman Reigns lui a roulé dessus et a gardé sa ceinture. Donc finalement, confrontation peut-être pas aussi forte qu'on l'attendait.
Écoute, je suis pas d'accord avec toi.
Ah ouais.
Je trouve que sur cette année 2023, avec le momentum qu'avait Cody Rhodes à ce moment-là, enfin les planètes étaient tout alignées, hein, on est d'accord, hein. Décider finalement que ce serait pas lui qui allait gagner, c'est vraiment insister énormément sur la performance du règne de, pour moi, hein, de Roman Reigns. Et quand le chouchou de tous, vraiment, hein, même des bookmakers, certainement à l'époque, est mis en échec, ça envoie un message ultra fort à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble du WWE Universe, en disant OK, on l'a construit, OK, il est blessé, OK, il revient, n'empêche que donc tout s'aligne. Et pourtant, là, il y a encore plus fort que ça, il y a encore plus fort que lui, il y a Roman Reigns qui arrive sur ses 3 ans et ça passe pas. Et au contraire, en creux, je trouve que ça renforce vachement la puissance du règne de Roman Reigns, parce que vraiment tout était écrit pour Cody Rhodes. Alors on en avait parlé lors des reviews, en se disant finalement il s'est blessé, il revient et on reprend le programme là où s'en était arrêté, à savoir qu'il devait gagner. Mais on ne saura jamais si effectivement fin 2022 ou enfin en 2022 avant la blessure, est-ce que ça allait être tout de suite ou alors qu'il allait avoir cette marche trop haute ou pas. Et je trouve vraiment que là, le fait de dire il est revenu à 100%, tout le monde est derrière lui, il va gagner, ce coup d'arrêt pour le faire repartir sur un autre programme après, bon, chose qu'on savait, enfin qu'on se doutait au moment, mais en tout cas, c'est vraiment mettre Roman Reigns très 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 au-dessus de la mêlée. Et moi, je trouve que, enfin, je l'aurais mis beaucoup plus haut, peut-être dans le top 3, en termes d'impact sur l'histoire, au moins. Même si je suis d'accord qu'avec toi, que ça a été assez court en termes de feu et pas forcément la plus intéressante ou la plus agréable à suivre. Je suis d'accord avec toi, mais en termes d'impact sur la puissance de la feu de Man Rains, je l'aurais mis beaucoup plus haut.
Oui, pour toi, en ne perdant pas ce soir-là, alors qu'effectivement, le moment, le contexte, le lieu, tout semblait évident, c'est vraiment le mettre sur un panthéon où il sera vraiment très très difficile d'aller le chercher, quoi.
Ouais, exactement, exactement.
Eh bien, je le conçois, je suis d'accord aussi avec toi. C'est vrai qu'il y a peut-être une étape en plus qui a été franchie quand même ce soir-là en se disant, bon, ok, il a fait 1 an, il a fait 2 ans, il a battu ci ou ça. Mais là, ouais, il a réussi à battre. D'ailleurs, il y a même des mèmes, des vidéos, des choses sur les réseaux sociaux qui tournent parmi les fans de catch qui me font assez rire, où les mecs s'imaginent ce film avec des sortes de filtres, avec des vieilles barbes et tout, en s'imaginant en 2053 quand Roman Reigns gagnera encore à WrestleMania. Ça donne d'autant plus un côté, je trouve, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quoi. Parce que si ça tombe
Ouais,
pas
ça a fait
là.
basculer. J'ai l'impression que ça a fait basculer le truc vers un truc inarrêtable, quoi, en fait.
Allez, on verra. On verra si on sera là pour les 2000 jours et si on refera la review. Mais bon, on invitera les prochains perdants. Alors, juste au-dessus de Cody Rhodes, c'est vrai que je l'ai mis peut-être un peu bas, le pauvre Cody. J'ai mis Logan Paul au-dessus de lui. J'ai mis Logan Paul au-dessus de lui parce que là, pour le coup, j'en ai la mémoire d'une feud où là, on est aussi passé dans une autre dimension avec l'ajout d'une méga star planétaire de YouTube et autres, hein, parce que. Il a réussi à emmener plein de trucs avec lui, je trouve, Logan Paul, et il fait plutôt bonne satisfaction à la WWE. Et l'ambiance là aussi qu'on a pu avoir dans cette feud, les confrontations verbales qu'on a eues, et puis finalement la qualité de la rencontre qui a laissé plutôt un bon souvenir à tout le monde. Donc ça, je reprends mes fiches, nous étions où? Nous étions
Crown Jewel
à
2022.
Crown Jewel 2022, c'est ça, ouais, c'est ça, c'était. Donc on était en Arabie Saoudite, voilà. première défaite de Logan Paul, bon, ça, à la limite, c'est un peu anecdotique parce qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs, mais il y a eu un côté, je trouve, là, vraiment méga star worldwide de Roman Reigns. Et on n'y a pas cru vraiment à ce que Logan Paul gagne, mais comme on est en Arabie Saoudite, on sait que tout peut arriver. Donc, j'ai un souvenir un peu frisson, quand même, frisson de plaisir, bien sûr, dans cette feud et dans ces matchs. Donc, je l'ai mis assez haut, ce bon vieux Logan.
Ben écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le match était dingue quand même. Franchement, Logan Paul, ouais. On dira ce qu'on en voudra, mais enfin voilà, il est pas né pour le catch, peut-être pas, mais en tout cas, il sait faire le job, quoi. Très très bien, quoi. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où ça c'est pareil, ça pose encore la rivalité, l'histoire de Roman Reigns et le règne de Roman Reigns. Dans le sens où ça donne un peu l'impression qu'il est allé éliminer tous ceux qui étaient dans son jardin, là, sur le terrain du catch, et ouais. Que maintenant, il faut qu'il aille chercher ailleurs, quoi. Et que, bah, du coup, jetez-moi qui vous voulez, quoi. Logan Paul, qui est positionné plutôt comme le YouTuber, l'influenceur, etc., etc., donc en dehors du système, quelque part, même si, voilà. Et donc, du coup, bah, pas de problème. J'ai tué toute la concurrence, on va aller en dehors, amenez-moi lui, on va voir ce qu'on va voir, quoi. Donc, pareil, ça fait progresser, je trouve, l'importance de son histoire, et ça fait progresser finalement sa dynastie et tout le reste, quoi. Donc je suis assez d'accord avec toi pour le mettre à cette place-là, voire peut-être pour ce côté-là où j'ai tué le game, et puis donc je vais voir un poids. Il est bien pour moi là où tu l'as positionné pour cet aspect-là.
Ouais, je me souviens de ces conférences de presse justement avec Triple H qui intervenait. Enfin, comme tu dis, ça. On sortait encore. Ouais. C'est comme s'il était sorti de la WWE pour faire cette feud de Roman Reigns et qu'il était parti dans le monde du show business et des plateaux télé, quoi. C'est comme s'il avait feudé contre, je sais pas moi, j'allais dire Stallone ou une superstar du ciné, mais non, parce que Logan Paul, c'est même encore plus moderne, plus d'actualité.
Je te rejoins sur un point, sur le fait que c'est à ces moments-là, je crois à partir de 2022, où j'ai commencé à avoir dans mes flux, etc., des Roman Reigns qui passaient régulièrement sur les late ou sur les shows américains, etc., etc. Donc ils sortaient, ils devenaient plus grands finalement que son titre et que son règne. Et il devenait vraiment, il basculait sur l'image de la WWE. Et donc, c'était complètement légitime qu'il aille du coup taper quelque chose qui est en dehors de la WWE, enfin, faire une feud contre quelque chose qui est en dehors ou pas tout à fait complètement dans la WWE, quoi. Et c'est à ce moment-là. Et donc, ça avait du sens qu'il fasse et qu'il crée ce truc-là à ce moment-là.
Allez, en numéro 8, là, pour le coup, j'ai mis mon petit chouchou. J'avoue qu'il est peut-être un peu haut dans le classement par rapport à l'impact qu'il a eu sur le règne de Roman Reigns, mais parce que ça me faisait plaisir de reparler de lui, j'ai mis Cesaro en 8e, qui, sur le règne de Roman Reigns, n'aura pas forcément un impact énorme, même si on est à l'époque où Jimmy Uso revient aussi. Il y avait Jimmy Uso mêlé dans tout ça, qui revenait un petit peu voir son frère Jay en lui disant « Qu'est-ce que tu fais avec Roman Reigns ?» Enfin, c'était un petit peu tout mélangé, c'était un petit peu aussi... Ça a été une étape supplémentaire pour la Bloodline, la feud contre Cesaro. Mais je l'ai mis là aussi parce que c'est un peu le bouquet final de la carrière de Cesaro, qui a donné un très gros match de Roman Reigns, un des plus longs, hein, quasiment 35 minutes, qui finit sur une guillotine hyper longue. Donc je trouve quand même qu'en termes de... À la fois pour cette Bloodline qui continuait de se construire ce soir-là, et puis cette intensité catchesque, en fait, on vient juste de sortir de WrestleMania, là, le WrestleMania où il y a Daniel Bryan et Edge. Je trouve qu'on a ce coup-ci quelque chose qui glissait plus sur le côté pur wrestling technician, et où Roman Reigns montrait qu'il arrivait aussi à surclasser ses adversaires les plus cotés dans ce domaine-là, les plus wrestling, tout simplement. Donc j'en ai quand même un fort souvenir, peut-être. En vrai, c'est sûr que c'est pas aussi fort que Cody Rhodes ou Logan Paul dans la prestance de la feud, mais je trouve que Cesaro a pas démérité d'avoir eu ce petit moment de main event.
Pardon, micro coupé. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je l'aurais mis beaucoup moins haut. C'est-à-dire que en termes d'histoire, en termes d'impact finalement, même sur la suite. Ça a été bien trop léger, à mon sens, pour que ce soit si haut dans le classement, tu vois, hein, typiquement par rapport à ce qu'on se disait précédemment, hein, Logan Paul ou autre. Mais par contre, ça n'empêche pas que je suis hyper content pour Cesaro qui méritait vraiment ce push. Même si, enfin, souvenons-nous aussi, il n'a pas été non plus super bien construit. Il y a eu certains éléments où on se disait qu'il débarquait un peu là par hasard, ou bref, c'était pas aussi légitime en termes de construction que d'autres oppositions. N'empêche que on a pu se rendre compte que Cesaro sur le ring c'était quelque chose. Enfin, moi j'adorais ce catcheur. Il est pas mort évidemment, mais j'adore ce que fait ce catcheur là, et il a pu montrer que il était capable d'avoir des éléments intéressants dans les gros et dans les pay-per-view. Mais non, je l'aurais mis beaucoup plus bas par rapport à l'impact sur l'histoire. Et même s'il y a ces premiers éléments un peu autour de la Bloodline, comme tu les as cités, je l'aurais mis un peu plus bas. Et pourtant, je te dis, hein, comme Dieu sait que j'ai apprécié le push qu'il a pu avoir, parce que mérité, et puis pour la qualité du match qu'il a pu donner, quoi. Mais si on se recentre sur un peu sur l'histoire et sur le règne de Roman Reigns, je l'aurais mis plus bas en termes d'impact.
Je comprends, je comprends. C'était aussi un petit coup de cœur. En septième, alors c'est assez particulier parce que j'ai mis quelqu'un qui finalement a eu très très peu d'impact sur le règne de Roman Reigns, et on va même en discuter, c'est même un peu étonnant, mais c'est pour la performance de la rencontre, c'est Seth Rollins, 7 pour Seth Rollins, une toute petite feud, un tout petit match, nous étions au Royal Rumble 2022. Et en fait, c'est quand même assez important puisque c'est la seule défaite de Roman Reigns officiellement. Il a perdu ce soir-là par disqualification et il n'a jamais vraiment remis son titre en jeu contre Seth Rollins. On attend toujours une revanche de ce match qui fut un match incroyable avec un Seth Rollins en feu qui arrive par les tribunes avec la musique du Shield, qui lui fait une powerbomb sur la table d'entrée. Enfin, Seth Rollins ce soir-là a surclassé Roman Reigns. Et en fait, Roman Reigns a réussi à conserver le titre. Donc quand même peut-être une construction intéressante sur le fait que même face à plus fort que lui, peut-être que Seth Rollins est plus fort que Roman Reigns en vrai, mais même face à plus fort que lui, Roman Reigns réussit à passer par un coup de vis. Mais on a quand même très très peu utilisé cette rivalité. Pareil, c'était un Royal Rumble. Ensuite, on a très vite enchaîné avec Brock Lesnar et un programme à WrestleMania. Donc elle est à la fois peut-être plus secondaire que d'autres dont on a parlé maintenant, mais un match, s'il avait fallu aussi juger les matchs dans ce classement, un des matchs qui était peut-être le plus impressionnant. Donc ça fait la septième place pour moi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire dans tout ça, Géliel.
Oui, je vois tout à fait, et je partage le côté sous-employé. Rappelons-nous, c'était le moment où Seth Rollins essayait de rentrer, et était d'ailleurs rentré complètement dans la tête de Roman Reigns avec cette fameuse intro, effectivement, avec le Shield, etc., etc. Il était machiavélique comme jamais, Seth Rollins, sur ce moment-là. Il était excellentissime dans cet exercice, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. Rappelons-nous le moment pénible comme jamais où il avait été face. Voilà, c'était un calvaire absolu à chacune de ses petites apparitions. Non, énorme Seth Rollins. Tu fais bien de préciser aussi que seule défaite, même par DQ de Roman Reigns. Si on se garde ça en tête quelque part, est-ce que on n'aurait pas des indices quelque part sur la suite ou... Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me plairait énormément que ça revienne et qu'avec une issue éventuellement identique, mais que cette fois, on voit l'architraître qui prendrait le dessus, quoi. Elle est bien positionnée dans ton classement parce que l'impact sur l'histoire actuelle n'est pas forcément incroyable, même si on a eu un match et puis une préparation qui était vraiment super sympa. Mais peut-être parce qu'on a peut-être un artefact de ce qui pourrait se passer plus tard. En tout cas, j'adorerais, quoi. En tout cas, j'adorerais. Donc, je valide complètement la position avec toi.
Ah, tu as un client qui partage ton avis et ça a été une de mes grosses déceptions. Alors, l'histoire n'est pas finie. Rien n'est jamais fini à la WWE, mais à la création, enfin, à la réactivation de ce World Heavyweight Championship, qui était promis à Seth Rollins, qui fait un très beau champion actuellement. Mais ce petit côté de me dire, ça veut dire qu'on va pas y aller de suite et Seth Rollins il va tenir la baraque à Raw pendant que Roman Reigns va la tenir à SmackDown.
Bon, ouais, de suite, je suis d'accord avec toi sur le de suite, ouais.
On verra. On verra, l'avenir nous le dira. En number 6, j'ai mis Daniel Bryan. Daniel Bryan qui aura fait une grosse session de printemps contre Roman Reigns. Donc là, on est en 2021. C'est la période là où donc Daniel Bryan il se glisse dans la feud pour WrestleMania, tout simplement. Avant ça, il a un match justement à Fastlane contre Daniel Bryan avec un Edge qui est intervenu. Qui était arbitre, enfin qui était special guest enforcer. Enfin, il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Il y a eu Elimination Chamber, pardon, juste avant un Elimination Chamber où Daniel Bryan devait gagner l'Elimination Chamber avant d'affronter Roman Reigns directement dans la foulée. Bon, ça n'avait pas trop fait de suspense évidemment. WrestleMania donc le Triple Threat et puis à la fin un match de mémoire en weekly. Oui, c'était ça, un weekly à SmackDown.
Oui.
Ou tout simplement, voilà, Roman Reigns dit à Daniel Bryan, si je te bats, tu dégages, je veux plus te voir. Daniel Bryan a perdu, il a dégagé, on l'a plus vu. Donc maintenant, il est du côté de la All Elite Wrestling, mais déjà dans le fait d'utiliser Roman Reigns pour finir le contrat de Daniel Bryan, et puis bah, toute cette rivalité qui, mine de rien, en relisant mes notes, elle a été assez longue, hein, tout ce printemps avec cette Elimination Chamber. Enfin, on nous rejouait un peu le Daniel Bryan qui veut attraper le main event et qui arrive pas, et qui passe par toutes les épreuves. Donc on a utilisé la Roman Reigns comme le bloc de granit qui allait lui fermer la porte. Et ça a été quand même important, je trouve, dans le règne de Roman, qui n'était alors qu'à sa 4 mois, allez, 6 mois de règne, et champion en septembre, et là on était en février de l'année suivante. Donc ça a marqué quand même, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses?
Et à la, tu vois, en t'écoutant, effectivement, sur le coup, ça ne m'avait pas forcément marqué tant que ça. Voilà, sur la construction et sur la réalisation. Positionner Roman Reigns comme sanction, ça pouvait en dire long déjà sur la suite du règne, ce que ça donnait, et puis de finalement la position qu'allait prendre Roman Reigns dans la WWE, puisque s'il devenait agent exécuteur finalement de la WWE, alors tout étant évidemment scénarisé, mais ça lui donnait une position de force incroyable, puisque c'est lui qui avait le droit de décider finalement sur la poursuite ou non des contrats avec certains catcheurs, en tout cas sur la carrière, comme il disait. C'était assez fondateur, je suis d'accord avec toi. C'est finalement assez fondateur ce truc-là. Et je te remercie de l'avoir remis devant, parce que je ne pense pas y avoir été trop sensible au moment où ça s'est passé, mais ouais, je valide l'analyse que tu fais là-dessus, quoi. C'était plus fondateur que ce que j'avais pu le voir à l'époque.
Bah, c'est une des feux par rapport à tous ces gens qu'on a cités jusqu'à présent, dont beaucoup n'ont eu qu'un seul shot, hein, que ce soit Logan Paul, Cesaro, Seth Rollins, Cody Rhodes à l'heure actuelle. Voilà, il y a eu vraiment une vraie rivalité avec un Daniel Bryan qui tente par tous les moyens dans cette période hivernale, fin d'hiver 2021, et qui n'y arrive pas et qui va même jusqu'à sacrifier sa carrière. Donc, pour moi, c'était un moment assez marquant, ouais, assez impressionnant de donner à Roman Reigns ce statut-là. Et en 5, puisqu'on entre dans le top 5, encore un match fondateur. En 5, j'ai mis celui pour lequel j'y ai cru le plus, je pense. Celui pour lequel j'étais vraiment persuadé qu'on allait vers quelque chose. Celui qui s'est retrouvé juste à 2 ans de règne de Roman Reigns. Bah, c'est l'Écossais, c'est le bel homme. C'est Drew McIntyre, le match à Clash at the Castle, sur ses terres, devant des dizaines de milliers de fans, qui d'ailleurs doivent encore cauchemarder de la session post-match. Une énorme rencontre, de l'overbooking monstrueux, et Solo Sikoa, puisque les Usos étaient bannis des abords du ring. Roman Reigns devait se débrouiller seul à seul, mais non, c'était l'arrivée de Solo Sikoa qui s'est glissé là-dedans et qui a depuis été l'ajout suprême final de la Bloodline. Donc là, on a eu peut-être, de mon point de vue, en tout cas plus encore qu'à WrestleMania contre Cody Rhodes, dans ce stade immense, ce soir-là, le côté il perdra jamais, en fait. S'il perd pas contre Drew McIntyre chez lui, sur ses terres en Europe, au Royaume-Uni, dans ce contexte-là, si on est prêt à mettre une énorme clim à 70 000 personnes qui sont venues pour ça, c'est vraiment monstrueux, quoi. C'était le premier Premium Live Event depuis 30 ou 40 ans là, en Europe. Ils sont allés jusqu'au bout de garder Roman Reigns champion. Et ça je continue d'en être impressionné.
Je suis d'accord avec toi, effectivement. Je crois aussi que c'est pour là que Roman Reigns a atteint une apex dans la hit. On avait quand même comme tu le dis, 70 contre. Et parce que on avait une espèce d'alignement de planètes sur le fait que on devait perdre contre Drew McIntyre qui était chez lui. On a une construction qui était quand même qui avait été très sympa aussi où il y avait Molos où enfin voilà on sentait qu'on pouvait passer et le nombre de nerfs qu'il y a eu pendant le combat où on s'est dit bah voilà c'est... et puis non il se ressort dernièrement et puis qui en plus donc l'overbooking qui fait encore gagner Reigns, c'était extrêmement bien ça boucle la avec Bloodline au-delà de Reigns qui la rend encore plus dangereuse encore plus parce que maintenant ils ont en plus du Tribal Chief on sent que là c'est fini quoi il est parti dans le 2005 parce que ça donne énorme match, énorme feu, et ce sentiment d'invulnérabilité comme jamais quoi. D'accord.
Ouais. Ça faisait un très très gros feu de marquante pour Roman Reigns, mais je l'ai mis juste après le numéro 4. En numéro 4, j'ai mis Brock Lesnar. Pourquoi Brock Lesnar? Parce qu'il est quand même assez incontournable dans la feud contre Roman Reigns, hein. Ça a été un peu son adversaire permanent. On a eu combien de main events de WrestleMania et de SummerSlam? On en a eu des très mauvais, on en a eu des très bons, on en a eu longtemps des très mauvais quand on était dans cette époque de Roman Reigns, Babyface, qui fait tout pour affronter le méchant Brock Lesnar, qui est un champion qui est jamais là et puis qui arrive pas. Voilà, Giscard l'a vu en live et s'est pris la tête à deux mains à cette époque. Mais dans la configuration inverse du Roman Reigns Tribal Chief, je trouve qu'ils ont réussi vraiment à faire des choses beaucoup plus rafraîchissantes avec ce Brock Lesnar, lui plutôt dans le registre cowboy avec son chapeau rigolo. On a eu plein d'étapes, hein. On a eu cette fameuse feud justement donc en début 2022 avec un Brock Lesnar qui arrive à quelques temps ravir Paul Heyman à Roman Reigns et puis en fait Paul Heyman revient à Roman Reigns. Il y a quand même donc à WrestleMania cette année-là la fusion des ceintures. WrestleMania 38, donc champion de la WWE et champion universel, winner takes all. Et là, on était partagés, hein, les pronostics, on savait pas du tout forcément qui allait repartir avec cette ceinture-là. Et puis, ils nous ont clos le truc, je pense, en tout cas pour le moment, d'une manière assez définitive, avec le SummerSlam de cette année-là, avec un Last Man Standing match énorme. Avec les instruments de chantier, le déménagement du ring, tout qui pète. C'était juste avant Clash of the Castle. On a une énorme série cet été-là. Donc quand même, mine de rien, Brock Lesnar, dans la progression de Roman Reigns, qui est aussi devenu un Tribal Chief, il n'est pas arrivé comme ça à la WWE. Hein, il a fait ses gammes, il a fait ses preuves. Qu'on soit passé vraiment, on a tourné la page en fait. Ça y est, c'est plus Brock Lesnar qui gagne. Maintenant, c'est systématiquement Roman Reigns qui gagne contre Brock Lesnar. Brock Lesnar est en train de devenir le has-been, voilà, celui qui n'arrive pas à décrocher mais qui n'arrive plus à gagner. Là, on a quand même aussi une étape supplémentaire qui est franchie, non?
Oui, je suis d'accord avec toi. Et surtout ce côté fil rouge, un peu Némésis qui arrivait entre Lesnar et Roman Reigns en se disant. Mais il revient parce que voilà et que sur plusieurs feuds sur toutes ces années et ben finalement comme tu l'as dit hein Lesnar dans le rétro et puis ça semble acquis et donc pareil c'est une opposition avec un hors norme qui aurait pu marquer le rétro c'est pas évident. Et peu l'ont fait de battre plusieurs fois. Ouais, ça marque beaucoup de choses. Et sur des affrontements qui étaient effectivement vraiment le point de SummerSlam 2022. Ce match-là, qui est soulevé par le tractopel, une fois avec l'overbooking de la Bloodline, hein, il y avait Jamie était là. Mais n'empêche, et encore une fois, comme le match précédent avec son emballé avec. Mais en tout cas, Il a largement à ce niveau-là, pour moi, Brooklyn.
C'est vrai que j'avais oublié les segments théoriques qui étaient pas mal drôles aussi. Mais ouais.
Oui.
Alors Brock Lesnar,
Bien mort.
ouais, le pauvre. Brock Lesnar aurait pu être sur le top 3. J'ai mis quand même juste devant Kevin Owens. Kevin Owens qui a été en feud contre Roman Reigns à de multiples reprises, et c'est surtout pour ça que je lui mets que je lui mets le shot. Il est très très méritant, Kevin Owens. Il a été l'un des premiers, hein, à affronter Roman Reigns. Il faut revenir à TLC 2020. On est encore en période de Covid, on est encore au Thunderdome. On a un TLC match énorme entre les deux hommes où Kevin Owens est à deux doigts. Enfin, le règne de Roman Reigns aurait pu se finir au bout de 2 mois, en fait. Et Kevin Owens était à deux doigts de gagner ce TLC match monstrueux. Il y a eu la revanche au Royal Rumble 2021. Un énorme match aussi, avec une fin un peu contestable. Je ne sais pas si tu te souviens, là où Paul Heyman se retrouve avec les clés de menottes et où ça botche un petit peu
Avec les
le last
menottes,
man.
oui.
Ouais, avec les menottes, c'était un peu raté. Mais Kevin Owens, il a eu l'audace de revenir et de revenir au Royal Rumble 2023, donc c'est pas si vieux, avec un nouvel affrontement. Et là, c'était la période légendaire du Sami Zayn, hein, ce main event de Royal Rumble. C'est peut-être un des main events les plus marquants auxquels j'ai pu assister, hein, quand les cousins Russo tabassent Kevin Owens et puis Sami Zayn. Mais on va en parler de Sami Zayn très vite, vous avez dû le deviner. Donc Kevin Owens, on peut parler de Brock Lesnar comme l'un des plus grands rivaux de Roman Reigns, mais je trouve que Kevin Owens est même presque au-dessus dans cet affrontement, parce qu'il y aura toujours avec Brock Lesnar cette différence un peu d'âge et d'époque qui fait que Brock Lesnar était le champion du passé, alors que Kevin Owens, c'est un petit peu le poulie d'or de Roman Reigns, quoi. C'est son rival qui arrive jamais à le battre, mais qui aura vraiment réussi à lui faire baver, et à travers les années, et ils sont très peu, je pense même que c'est le seul, hein, dans notre classement de rivaux de Roman Reigns qui a réussi à se replacer dans la course 2 ans après sa première défaite.
Ouais, je comprends les arguments que tu as. Je suis ouais, je suis haut. Alors peut-être parce que j'y ai jamais cru. Peut-être pour ça. J'adore que il n'y a pas de souci dessus. Mais ma position est dans sa cité à écrire l'histoire sur cette sur ce rêve. Enfin, pour moi, aurait pu faire donc je suis d'accord avec ta proposition. J'ai un petit peu en dessous parce que j'ai toujours moins cru que et notamment ce fameux match SummerSlam 22, quoi. Voilà.
Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai que s'il fallait dire ceux qui nous ont fait douter de la victoire potentielle, peut-être Drew McIntyre et Brock Lesnar étaient au-dessus de Kevin Owens, effectivement. J'ai plus félicité, oui, la constance de la tension de rivalité, et puis l'écriture aussi que ça a eu à la fois au tout début. Ça a été quasiment sa première grosse feud. Et puis ce qui s'est passé là 2 ans après avec la construction et la destruction finalement de la Bloodline, pour lequel il a été un artisan majeur. Mais c'était presque un personnage secondaire dans cette histoire de Bloodline de début 2023, en fait. C'était presque un prétexte, Kevin Owens.
Oui, je comprends.
Et le vrai héros de cette feud-là, c'est celui que je mets en place numéro 2. C'est Sami Zayn.
Ah.
Évidemment, on ne pouvait pas le rater, et ça a été vraiment quelque chose de. C'est pareil, il y a un côté où on n'y a pas vraiment cru, mais enfin, quand même, ce Elimination Chamber à Montréal, toute cette feud étalée sur des semaines et des mois de Sami Zayn dans la Bloodline, puis mis un petit peu en porte-à-faux, puis mis en test avec son final test lors du Royal Rumble où il a trahi Roman Reigns, il a tapé d'une chaise dans le dos, encore une fois, rappelant les époques les plus sombres du Shield. Sami Zayn, il a réussi à écrire quelque chose d'incroyable. Et lui, pour le coup, a été un adversaire qui s'est hissé jusqu'à Roman Reigns. On l'aurait jamais mis sur la carte des rivaux qui feraient jeu égal avec lui il y a 1 an et demi ou 2 ans. C'est pas Sheamus, c'est pas Drew McIntyre, c'est pas Goldberg. Mais il est parti, il a créé son propre personnage, sa propre gimmick, sa propre histoire. Et son histoire, il est allé la chercher voilà, très très loin, grâce à sa popularité, grâce à son charisme, grâce à son énergie. Et je pense que cette soirée-là à Montréal, peut-être pas aussi intense que Clash at the Castle, parce qu'on avait peut-être moins d'espoir pour Sami Zayn, mais quand même, là, on a vraiment définitivement mis Roman Reigns comme le tueur de tout espoir, quoi, le tueur de tous les gentils.
Ouais, je suis avec toi. Ça se positionne même plus que le ring. Parce que voilà, l'histoire de Sami Zayn avec la Bloodline, elle a été longue. Elle a alimenté beaucoup de weekly, beaucoup de pay-per-view, de manière parfois un peu comique, mais par manière un peu sérieuse. Et puis plus le temps avançait, plus ça devenait quelque chose de sombre, de dark, que ça se termine avec forcément quelque part on peut se dire avec un attement c'était plus ou moins écrit également alors tu meurs c'était forcément le plus gros match qu'il y a eu à faire sur son règne il a été assez court au final d'un match qui faisait même pas 10 minutes, même avec l'arrivée de Kevin Owens et plus les Usos, quoi. Mais ouais, c'est là où il y a un petit côté même pas drôle, quoi. Où ouais, là on aurait pu être sur quelque chose d'un peu en dehors, ça pouvait être un peu plus dur, etc. Mais non, même pas. Roman Reigns, il dégomme, quoi. Il regarde pas, c'est la machine, quoi. Et même quand on est sur quelque chose qui est un petit peu en dehors, parce que ça touche un peu le psychologique avec la famille, etc. Il y a pas de pitié, il y a rien. Ouais, ce côté un peu machine de Roman Reigns qui se met en place là, enfin voilà, et qui donne du sens et du corps à tout son règne. Ah, c'était très 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 bon, très 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 bon. Et puis si on enlève effectivement ce bout de match ou la partie où ils sont revenus in ring, l'importance de Sami Zayn sur l'écriture globale de la Bloodline du règne de Roman Reigns, elle est incroyable quoi. Donc j'ai hâte que tu nous donnes ton top 1 parce que si tu ne mets Sami Zayn que top 2, j'ai hâte.
Eh bien, écoute, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai mis en numéro 1 celui qui a été un des tout tout premiers adversaires de Roman Reigns et qui n'était pas du tout pressenti ou qui était difficilement envisageable comme challenger de Roman Reigns et pourtant qui pour moi a créé vraiment la fondation de ce qu'est Roman Reigns aujourd'hui. Bah, c'est tout simplement son cousin, c'est Jey Uso. Jey Uso qui était là en fait à la WWE en solo, hein. Son frère était donc blessé. Et Jey Uso qui s'est retrouvé un peu par hasard, je crois que c'était une bataille royale à l'origine, qui s'est retrouvé challenger de Roman Reigns. Et on a eu cette écriture donc incroyable. En fait, c'est là que tout a été créé. Hein. C'est là qu'a été créé le concept de chef de la table, de la famille. C'est là qu'on a invoqué les grands esprits samoans. Donc il y a eu deux matchs. Hein. Il y a eu un Clash of Champions avec un match où Jey Uso a abandonné sans abandonner, puisque c'est Jimmy qui était venu aider son frère. Et puis ce point culminant qui a été ce Hell in a Cell I Quit Match. On est le 25 octobre 2020 et donc bah, ça n'a jamais eu lieu avant et ça n'a jamais eu lieu depuis, un Hell in a Cell I Quit Match où Roman Reigns en fait a torturé Jimmy Uso qui avait réussi à rentrer dans la cage et a forcé Jey Uso à dire I Quit pour qu'il sauve son frangin. Donc là pour moi, et en plus dans la foulée en fait, Jey Uso totalement soumis à son cousin, bah, devient le right-hand man, fait son heel turn, se range dans les rangs du chef de la table. Donc c'est là qu'on crée tout pour moi en fait. C'est là qu'on. En fait, ils ont eu la brillante idée, alors qu'au début, on se dit bon, ok, Roman Reigns, il vient de battre Braun Strowman et Bray Wyatt, qui c'est qu'on va pouvoir lui mettre? Tiens, on lui met Jey Uso, bon, ça sort un petit peu nulle part. On imagine qu'ils n'avaient pas déjà prévu que ça durerait 3 ans ou que ça aurait l'aura que ça a maintenant, mais dans l'intelligence pour la suite, en fait, créer cette domination-là sur son propre cousin et puis installer cette famille, je trouve que pour moi, c'est toute la suite du règne de Roman Reigns commence ici, en fait. Donc les débuts ont été extrêmement bien pensés et très bien exécutés, puisqu'on l'avait dit à l'époque, hein, mais ces matchs-là ont été énormes, la psychologie qu'on a eue, l'énergie qui se dégageait, Jey Uso qui était hyper méritant, mais Roman Reigns, on l'avait pas revu depuis quelques temps à cause du Covid, on en était encore sur un Roman Reigns poster boy qui affrontait Corbin pour des histoires de biscuits pour chiens et autres. La dimension a été prise là, en fait, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est là on est sur les fondations. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, ça a posé des bases hyper élevées en termes de, on va dire, d'exigence d'écriture et de réalisation. Parce que au-delà du règne en tant que tel de Roman Reigns, on a en même temps 3 ans d'une écriture parallèle de la Bloodline, ce qui n'est pas fini encore, qui est d'un niveau stratosphérique par rapport à tout ce qu'on a pu voir et subir de pathétique ou autre à la WWE. Là, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer en termes d'écriture, en termes de proposition sur la création, la mise en place de Roman Reigns et puis sur la création de la Bloodline. Et je reconnais bien volontiers ne pas avoir perçu ça comme une pierre angulaire de la création de tout ce qui allait suivre derrière, quoi. Je ne suis pas sûr, et tu l'as dit, qu'ils avaient aussi, qu'on arrive aux 1000 jours. C'est quelque chose qui est quand même un peu remis sur le travail régulièrement, hein, les feuds, ou que ça marcherait aussi bien. Mais ça a mis très très haut tout de suite toute l'histoire. Et ouais, sur le top 1, je le mettrais même carrément à part, en fait, on reste sur du catch, on reste sur de l'histoire, mais c'est les prémices, quoi. Donc c'est même un peu avant le règne de Roman, donc mettre un petit peu à part. Mais ton choix est hyper pertinent dans l'écriture globale de ce qui va découler, quoi. Donc ouais, j'y pensais pas forcément, mais je te rejoins sur ce truc-là, quoi. Mais tu vois, j'aurais mis Sami Zayn en top 1 sur tout ce qu'il a apporté à l'histoire et puis sur son déroulé. Et puis quelque part, un élément fondateur comme étant ce truc-là avec le positionnement des frères Rousseau, qui n'étaient autres que les frères Rousseau, les cousins de Roman Reigns, et qui ont, en perdant les deux, en ayant ces deux matchs dingues, se sont rangés derrière et ont finalement commencé à construire ce qu'allait être la Bloodline derrière, quoi. Donc voilà, pour pas te donner complètement raison, je dis que tu as raison, mais je l'aurais mis ailleurs. Mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose d'assez remarquable et pour positionner tout ce qui allait suivre derrière, je trouve.
Ouais, c'était pas encore la Bloodline, mais c'était déjà le règne de Roman Reigns, hein, clairement. Donc c'était pour
C'est
moi,
ça.
c'est ce que j'ai décrit, mais c'est ce qui a été le début. Et effectivement, un angle, voilà, c'est pas parti de rien. C'est-à-dire, on n'a pas commencé par une feud contre Finn Balor ou Rey Mysterio, puis on a avancé petit à petit. On a eu direct un choix très très fort qui était vraiment hors du commun, puisque lui-même, Jey Uso, n'avait jamais eu de match en main event comme ça avant, n'avait jamais eu de title shot en solo. Donc, on l'a pas senti, moi non plus, hein, je suis comme toi, on ne devinait pas que c'était quelque chose qui allait nous expliquer ce qui allait se passer pendant 3 ans, mais c'est vraiment les racines de Roman Reigns et son personnage qu'il a actuellement. On est aux 1000 jours d'ailleurs, et c'est amusant de remarquer qu'on retombe là-dedans, hein, puisque là nous sommes à quelques jours d'un Money in the Bank, où Roman Reigns ne perdra pas son titre, il ne le défend pas, mais où il va devoir reprendre un petit peu toute l'histoire familiale contre les Uso avec Solo Sikoa. Probablement que sa prochaine défense de titre aura lieu à SummerSlam. Ou plus tard, on ne sait pas contre qui.
Et
Donc
s'il n'y en avait
voilà.
pas?
Et s'il n'y en avait pas? Et s'il n'y en avait pas? Le
Mais
classement, en tout
non,
cas,
l'histoire d'une autre
Ah.
manière. Tout est
Ok.
envisageable sur cette histoire. On est sur les 1000 jours, on arrive sur quelque chose qui boucle au niveau de la famille. On pourrait voir quelque chose d'encore plus étonnant avec un Roman Reigns qui se retire à la façon d'un Michael Jordan au sommet de son art en disant, bah voilà, j'ai tout tué, je laisse le truc vacant et puis je me retire là-dessus. Ça pourrait être aussi quelque chose de ce style-là.
Ah bah écoute, j'allais
Pourquoi pas?
justement ouvrir les perspectives en te disant, avec cette liste-là de 18 catcheurs, enfin 19 même, non pardon, 18 battus officiellement à la télé, alors j'aurais pu en rajouter deux. Il y a Shinsuke Nakamura qui avait eu un match lors d'un Tribute to the Troops, bon c'est pas vraiment un pay-per-view ni un live event, mais voilà. Et puis Biggie qui avait perdu lors d'un match champion contre champion lors d'un Survivor Series. Donc ça fait quand même des grands noms. Il y en a eu d'autres lors de certains house shows. Bah oui, qu'est-ce qui fera tomber Roman Reigns? On est à 1000 jours, est-ce qu'on va aller à 2000, à 2500, à 3000? On ne sait pas. On n'arrête pas de dire que ça sent un petit peu la fin, et en même temps, il y a rien qui laisse présager que ça s'arrêtera, même si Roman est moins présent, même si Roman et moins là. Mais bon, on a réussi à pallier à ça à la WWE, on a ressorti notre ceinture. Donc le champion, il y en a un, il y a un Seth Rollins, il va se battre, il y a des AJ Styles, il y a des Finn Balor qui cherchent tout ça. Donc en fait, il pourrait rester assez longtemps dans cette place. Et est-ce que le tombeur de Roman Reigns, s'il existe, parce que c'est vrai qu'il peut toujours partir sans avoir perdu, est-ce qu'il est dans cette liste de 18 noms là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Ça paraît difficile aujourd'hui d'imaginer qui peut affronter Roman Reigns. Est-ce que déjà toi dans cette liste, t'aurais aimé voir, c'est un peu comme la streak de l'Undertaker, est-ce que t'aurais aimé voir certains catcheurs? Moi j'avoue, j'ouvre les hostilités, j'aurais bien aimé quelque part qu'on nous case une petite feud avec Sheamus, mais il n'y a pas eu. Est-ce que t'as des regrets toi? Est-ce que t'aurais bien aimé voir un mec ou deux là-dedans?
En plus ou dans les 18?
Ah ben on va dire dans les. Bon, alors
Dans les
soit dans les
18.
feux d'a... soit dans les feux d'à venir qui nous restent. En tout cas, oui, il y a deux questions. En gros, est-ce que t'aimerais voir encore quel gars t'aimerais voir feuder contre Roman Reigns? Et puis pourquoi pas, lequel d'après toi pourrait le battre? Mais c'est plus facile de voir des mecs feuder contre lui que de voir des mecs le battre, je trouve.
Oui. C'est trop tard, mais je pense que j'aurais aimé voir Randy Orton s'opposer dans
Oui,
ce
bien
qui avait
sûr.
commencé à être construit là avec Matt Riddle. Je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Je pense que le dénouement arrivera avant le retour en pleine forme et l'éventuel retour en pleine forme et l'éventuelle éligibilité de Randy Orton à ce type de titre. Donc je l'enlève un peu à regret. Non, je vois vraiment pas là. Au moment où on se parle avec les 1000 jours, avec finalement l'opposition qui revient quand il a fait le tour de tout. Dans la WWE, puis en dehors de la WWE, je me dis ou je me prends à espérer que finalement le pire adversaire de Roman Reigns c'est lui-même et que du coup soit lassé, soit dans une espèce d'ivresse ou d'aveuglement de sa victoire, il en viendrait à faire l'erreur, le truc qui le ferait perdre. Et donc du coup finalement l'adversaire aurait assez peu d'importance au final, puisque ce serait Roman Reigns qui perdrait en fait, et ce serait personne qui gagnerait et ou qui le battrait. Ah, je pars un peu loin, hein, mais ouais, ça fait partie des trucs que voilà, j'aimerais bien voir plus finir comme ça parce que on sait qu'il a des velléités d'un peu moins, et en même temps, le faire perdre à la loyale comme n'importe qui, après un règne pareil, après tout ce qu'il a construit, montré, il y aurait quasiment un sentiment d'injustice pour moi. Et si on veut que ça se sanctuarise un petit peu, ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené, il faut que la sortie, elle soit aussi un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir, quoi. Donc, je ne l'ai pas en tête. Voilà, le seul truc que j'ai en tête, ce serait un truc où il irait quasiment provoquer sa défaite pour sortir de tout ça. Mais voilà, j'aimerais quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça que je réponds pas directement à ta question par une réponse. Je m'excuse. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais quelque chose d'autre pour marquer la fin et ou de la Bloodlines et en tout cas du règne de Roman Reigns au sein de la WWE.
Oui, je comprends bah, ce que tu dis, ça sonne très juste. Effectivement, c'est tellement énorme ce qu'il a fait qu'on n'imagine pas. Bah, voilà, il y en a eu 18, il y en a eu 19, et puis tout d'un coup, le 20e, on ne sait pas pourquoi. Lui, il réussira à placer son pinfall alors que Roman Reigns a résisté à des Claymore Kick, à des Spears, à des F5, enfin, à tout ce que tu veux. Tout d'un coup, qu'est-ce qui arriverait à le tuer vraiment? Il faut une grosse sortie. Alors, soit on utilise Roman Reigns, comme ça a été le cas pour Brock Lesnar, comme une étape pour quelqu'un. Peut-être que Cody Rhodes aura sa revanche dans 6 mois, dans un an. Peut-être que Drew McIntyre reviendra. Il est actuellement plutôt blessé. Mais c'est vrai que dans tout ça, on aimerait une histoire un petit peu différente. Alors moi, je reste toujours dans la tête avec cette espèce de storyline que j'ai inventée depuis des années du gars qui serait tellement dominant, et ça collerait bien à Roman Reigns, mais qu'un jour, en fait, ils viendraient tous lui casser la gueule en même temps, quoi. On verrait tout le monde arriver, là, les Sami Zayn, les Kevin Owens, les Cody Rhodes, les Seth Rollins, tout le monde le passe à tabac, et puis bah, il y a un petit malin qui cash in, ou il y a quelqu'un qui en profite, mais que ça soit un peu comme tu dis, et bah, en fait, Roman Reigns lui-même qui se sera tellement mis tout le monde à dos. Que tout le monde le fait tomber et que bah, c'est la révolution, quoi. On le porte à la guillotine, tout le monde l'attrape et puis le tabasse et puis le laisse tomber tout seul. Et puis ensuite, il nous dirait bah, qu'il a préféré quitter. C'est difficile dans le monde du catch de ne pas partir sur une défaite quand même pour au moins préparer l'avenir. Hein, ils l'ont tous fait. Mais il y a quelque chose effectivement à faire dans ce registre-là, comme tu dis, qui serait pas juste bah, tiens, c'est qui aujourd'hui à SummerSlam? Allez hop, c'est. C'est Cody Rhodes. Ah bah lui, Cody Rhodes, il est plus fort que Roman Reigns. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais il le bat. Mais tout est possible, c'est ça qui est beau dans le catch.
Clairement, clairement.
Bien. Bah écoute, merci Géliel d'avoir été avec moi. Je crois qu'ils sont en train de balayer là sous les chaises dans le bar. Ils ont coupé la musique, je sens qu'on nous met dehors, non?
Bon, oui, mais il y a un monsieur au fond là qui nous fait des grands signes. Oui, on va pas tarder là. On va... Bah, il est éteint. Ok. Bah, donc,
Ouais.
il va vraiment falloir qu'on y aille.
Ouais.
Merci pour ce super moment
Eh bien, avec plaisir.
où on a revu les 3 ans de règne. Je te laisse conclure, mais j'espère que les auditeurs ont aussi apprécié ce passage en revue et puis avec ces allers-retours dans le temps. Jusqu'à 2020 et puis jusqu'à plus récemment à 2023. En tout cas, ça a été un super moment passé avec toi, Raphaël, et je te remercie pour cette initiative du comptoir, du catch. On y va, monsieur. Oui, non, désolé, on va pas en reprendre une, mais par contre, on va y aller, promis.
Voilà. Je te laisse régler, Géliel, pendant l'instant. Je remercie le peuple de Ketchup. N'hésitez pas
Je
à nous
ferai une
donner
note de
votre.
frais à IRM, par contre, si ça pose pas
Oui,
de soucis.
voilà. Bah, prends la carte Ketchup, tu sais.
Ouais, c'est bon.
Ouais, ça va payer. Donc, bah, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner vos propres ressentis en commentaire, hein. Peut-être que vous avez eu des chouchous dans cette feud, peut-être que vous voyez certains plus haut, plus bas. Et puis dites-nous aussi qui aurait dû y figurer, qui vous auriez bien aimé voir, qui vous aimeriez bien voir. Il n'a pas fini son règne, Roman Reigns, il lui reste plein de choses à faire à SmackDown, plein de noms qu'on peut citer. Donc finalement, on peut repartir sur 3 ans de plus, qui sait. Donnez-nous tout ça en commentaire. Donc vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Catch-Up, sur toutes les plateformes de podcast. Donc il y en a plein, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram, Catch-Up CDC. Et puis bah, vous pouvez continuer à nous écouter pour la suite. Roman Reigns, c'était le passé. En tout cas, ces 1000 jours de Reigns sont derrière nous. Maintenant, il y a la suite. Au moment où on vous parle, voilà, nous sommes dans l'été 2023. Il y a du Money in the Bank à Londres. Il y a du SummerSlam qui se prépare. Il y a plein de belles choses. Continuez d'être avec nous. Continuez de réagir. Merci Géliel pour ta participation. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de catch. Ciao, ciao. Et Baron Corbin, il n'a jamais eu sa chance, lui, dans cette liste.
Moi, j'ai cru jusqu'à la fin. Jusqu'à la
Pourtant, c'est
fin.
le dernier, hein. C'est le dernier à avoir pinfall Roman Reigns.